France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Les conservateurs existent-ils encore ou sont-ils tous devenus réactionnaires et populistes ? La droite classique, modérée, libérale, notable, économe, sage et prudente, celle qui se hâte lentement pour ne pas bousculer la société et prend soin des finances du pays avec sa gestion de bon père de famille, cette droite n'est plus. Les droites qui triomphent à travers le monde sont, aux États-Unis par exemple, technopopulistes, loin du conservatisme pondéré. Elles prônent, au contraire, un aventurisme futuriste débridé. Elles cassent l'équilibre des pouvoirs. Elles ne sont plus polies et distinguées, mais grossières et violentes. Au Brésil avec Bolsonaro, en Argentine avec Milei. Et en France, les conservateurs bontins perdent-ils tous le nord gaulliste ou démocrate chrétien en déclarant, comme Laurent Wauquiez, que plus rien, hors l'économie, donc hors de ce qui est négociable, ne sépare LR du RN, du Rassemblement National. Nous avons réuni trois historiens de la droite, dont deux se reconnaissent conservateurs, pour évoquer la situation idéologique de ce camp. L'émission de ce soir est à ajouter à la série d'enquêtes de politique consacrée au conservatisme et aux réactionnaires. Vous retrouverez ces quatre épisodes sur l'appli Radio France, regroupés sous le même onglet. Avec nous ce soir, donc Olivier Dard, co-auteur du Dictionnaire du conservatisme, Laetitia Stroche-Bonnard, qui publie Gratitude aux éditions de l'Observatoire, et enfin Baptiste Roger Lacan, auteur du Roi, une autre histoire de la droite aux éditions Passé Composé. Le conservatisme devient-il réactionnaire ou populiste ? Bonsoir Olivier Dard, Laetitia Stroche-Bonnard et Baptiste Roger Lacan.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors on va d'abord commencer par essayer de débrouiller tout ça, la différence entre le conservatisme, la réaction ou les réactionnaires et le populisme. Olivier Dard, vous qui êtes professeur à la Sorbonne et qui avez enseigné tout ça depuis longtemps, faites-nous la différence entre conservateur et réactionnaire.
La différence entre conservateur et réactionnaire, pour essayer d'être simple, c'est le fait que le réactionnaire, finalement, observe le présent, analyse le présent avec, en même temps, l'idée que ce présent est profondément dommageable et qu'il faudrait par conséquent revenir à une forme de passé idéalisé. C'est-à-dire qu'il y a chez le réactionnaire une forme de refus du compromis avec un présent souvent jugé décliniste, décadent, etc. Du côté du conservatisme, c'est différent. D'ailleurs, le conservatisme en France naît véritablement sous l'égide de Chateaubriand, hein, dans les années 1815-1820. Et ce conservatisme, il a comme souci à la fois de sanctuariser un certain nombre d'éléments qui lui paraissent fondamentaux dans le fonctionnement des sociétés, mais aussi de s'adapter au réel. Et je dirais qu'il y a deux choses qui caractérisent sans doute le conservatisme. C'est une forme de prudence. Le conservatisme, ce n'est pas le blocage, ce n'est pas le refus, ce n'est pas l'immobilisme. C'est une forme de prudence et c'est aussi le souci, justement parce qu'il y a une forme de prudence, de mettre en avant un certain nombre de limites. Je crois que le terme limite est fondamental dans le discours conservatif.
On viendra au populisme, la troisième version, un peu plus tard. Laetitia Stroche-Bonnard, le conservatisme, vous nous aviez parlé dans une autre émission, c'est plus qu'une idéologie, un état d'esprit.
Oui, tout à fait. J'irais même jusqu'à dire que c'est un tempérament. En disant cela, je reprends les propos d'un grand philosophe conservateur anglais qui s'appelait Michael Oakeshott et qui définissait le conservateur comme quelqu'un qui préférait toujours, comme l'a très justement dit Olivier Dard, la prudence à la rupture, la conservation à l'innovation, la modération à la radicalité. Enfin voilà, on pourrait le décliner dans plein de domaines. Et d'ailleurs, il y a une dimension même un petit peu, humaine et personnel du conservatisme, au sens où le conservateur, souvent, est attaché à des objets très familiers. Les conservateurs vont écrire sur la nature, sur leur foyer, sur les objets qui leur sont chers. Donc, il y a un imaginaire... voilà, c'est moi, j'appelle ça l'imaginaire du coin du feu.
Oui, ils ne sont pas tournés vers le passé comme les réactionnaires, au sens « je veux revenir au passé ». Le passé, pour eux, est presque une nostalgie, quelque chose qu'il faut chérir, mais il n'est pas idéalisé.
Non, alors je dirais qu'ils vivent dans le présent, mais leur présent est fait de passé. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à dissocier facilement le présent du passé. Et c'est normal, parce que notre culture, nos institutions, à la fois tout ce qui fait notre vie collective et notre vie personnelle, est faite de passé. Donc le conservateur promeut la prudence, justement parce qu'il estime qu'il est très facile de détruire, il est beaucoup plus difficile de construire. Et comme on a reçu en héritage un certain nombre de choses, de traditions, d'institutions, on a un devoir envers soi-même et envers la société de conserver ces choses avant d'espérer pouvoir créer autre chose.
Oui, c'est vraiment un état d'esprit.
Oui, c'est un état d'esprit, mais vous savez, je pense que la plupart des gens sont conservateurs pour les choses qui sont importantes pour eux. Alors, pas forcément en politique. Donc là, c'est autre chose. Quand on est conservateur en politique, ça veut dire qu'on estime que cet instinct-là, la conservation, la transmission des choses qui nous sont chères, peuvent devenir une proposition politique.
Baptiste, Roger Lacan, comment vous différenciez-vous le conservatisme du réactionnaire ?
Peut-être que je prendrai le rebours et je commencerai par la matrice commune qu'ils ont, en fait, qui est une matrice, pour le coup, contre-révolutionnaire, en tout cas, qui est née dans l'opposition à la Révolution française, mais avec très tôt des tendances très différentes qui s'expriment, s'il fallait schématiser. D'un côté, le conservatisme naît dès 1789-1790, quand Edmund Burke publie ses réflexions sur la Révolution française, où il critique l'entreprise de la Révolution française, en critiquant l'idée de la liberté formelle au nom, pour le dire simplement, des libertés réelles. Il dit qu'en gros, en cherchant à établir une œuvre intégralement nouvelle, juridiquement, politiquement, la Révolution est en fait en train de balayer toutes les libertés acquises, toutes les libertés qui existent réellement. De l'autre côté, c'est vrai que la réaction, elle trouve ses racines dans une contre-révolution plus tardive, intellectuellement, qui émerge en fait après que les grands combats de la contre-révolution sont passés, après 1793-1794, sous la plume notamment d'un Joseph de Maistre, qui voit dans la Révolution française un cataclysme, et un cataclysme qui ne peut avoir de source que divine. Donc pour lui, l'explication, la raison de la Révolution, c'est que Louis XV et Louis XVI, en ayant trop laissé prospérer les abus de leur époque, ont fini par attirer sur la monarchie française le châtiment divin. Et donc lui commence, et c'est pas le seul, ensuite il y a d'autres contre-révolutionnaires qui investissent cette question, commence à investir le passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il commence à nommer le passé, c'est un peu la contradiction, le paradoxe fondamental du réactionnaire, c'est que en investissant un passé qui ne se disait pas jusque-là, notamment en investissant l'Ancien Régime, ils finissent par inventer une tradition modernisée. En fait, ils inventent la tradition, ils mettent des mots dessus, et donc ils sont pris en permanence dans cette tension entre un présent qu'ils honnissent et un passé qu'ils cherchent à restaurer. Mais en fait, en restaurant ce passé, on est quand même obligé de composer avec le présent.
Alors, puisque vous parlez de la Révolution et du conservatisme et des réactionnaires qui n'ont pas digéré ce changement de régime, je voudrais vous faire écouter, c'est en 1954, c'était à l'Académie française, le duc de Mirepoix qui remplace Maurras et qui fait son discours d'installation et donc l'éloge de Maurras sur ce thème.
Maurras, penché avec amour sur sa patrie, il observe que sans avoir rien perdu de leur qualité, ni dans les arts, ni sous les armes, les Français ont eu à subir, après 1792, 6 invasions. Alors que la monarchie expirante leur avait légué un sol inviolé depuis plus d'un siècle, puisque le génie national reste intact, le mal ne saurait être que politique. Ne s'exprime-t-il point d'ailleurs dans l'instabilité des régimes ? Nos républiques se plaisent à porter des chiffres à la manière des rois. Les vieux ordres d'existence, famille, métier, province, sont brisés comme des obstacles.
Alors, Olivier Dard, le duc de Mirepoix, expliquant Maurras, a-t-il un discours réactionnaire ou conservateur ? Il parle du régime politique. Le génie français reste le même, mais c'est le régime politique qui l'empêche.
Absolument, mais je pense surtout qu'il explicite assez bien la pensée maurrassienne, sans prononcer d'ailleurs, à mon avis, le mot qui aurait convenu, c'est-à-dire l'importance chez Maurras du politique d'abord. C'est-à-dire l'idée qu'il faut changer les institutions, remplacer cette république jugée mortifère pour le pays par un retour à la monarchie, avec aussi cette idée d'une opposition entre le pays légal et le pays réel. Un pays réel sain et un pays légal qui, lui, est en proie aux troubles, aux divisions, et qui conduit le pays à sa perte, avec effectivement toute cette image des invasions qu'on va retrouver constamment sous la plume de Maurras, bien sûr, mais aussi des autres auteurs de l'Action française. Une république qui ne peut pas protéger, c'était d'ailleurs ce qu'avait très bien montré Maurras, de son point de vue, bien sûr, avant 1914, dans un de ses livres les plus célèbres qui s'appelait « Qui a l'étangé ?». Kiel Étanger, qui avait d'ailleurs suscité une réponse du socialiste Marcel Samba, tout à fait original d'ailleurs, « Faites un roi, sinon faites la paix », en considérant que la République ne pouvait pas gagner la guerre. Et bon, la suite a montré que finalement, ce n'est pas uniquement la République, et d'ailleurs la République, pendant la guerre, a changé, ce n'est plus tout à fait le régime parlementaire d'antan. Il y a eu des changements à l'intérieur de l'État, évidemment, avec le passage à l'économie de guerre et à un régime de concentration autour de l'exécutif pendant le premier conflit mondial, même si le Parlement a continué de siéger, bien sûr.
Donc on voit bien que la différence entre le conservatisme et la réaction est un peu floue, mais il y a un troisième élément aujourd'hui, c'est le populisme. On a l'impression qu'une partie de la droite, et la droite dite réactionnaire, est populiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Olivier Dard, toujours, la différence entre la réaction et le populisme ?
Ce sont deux domaines différents. D'abord, je dirais que la notion de populisme, notamment dans un pays comme la France, est un terme finalement utilisé très récemment, dans un sens politique. Je veux dire par là...
Depuis Boulanger.
Et encore, on pourrait en discuter, mais je rappellerai, si on avait parlé du populisme il y a 40 ans, on aurait parlé du roman populiste. Ce qui me frappe aujourd'hui, il y a, à travers un certain nombre de discours populistes, une opposition qui est extrêmement marquée entre un peuple, qui serait un peuple sain, le peuple français, et des élites qui sont très violemment...
Ça rappelle ce que vous nous disiez sur pays légal, pays réel, c'est une autre version.
De ce point de vue, je pense que le populisme se caractérise par deux choses. Un, une remise en cause de la démocratie représentative, pas de toute forme de démocratie. La démocratie directe, c'est autre chose. Mais de la démocratie représentative, et là c'est un très vieux débat qui nous ramène, et notamment à la Révolution française, à la question du mandat représentatif, etc. Et deuxième élément, je parlais du rapport aux élites et au fait que pour sauver un peuple et une société réputée malade et en déclin, il convient de remplacer le système politique en place, pas forcément d'ailleurs tellement les institutions, et c'est de ce point de vue-là, aujourd'hui, l'idée monarchique est quand même très très limitée dans son développement, mais remplacer, au fond, des élites politiques qui sont réputées effectivement décadentes, qui sont réputées brader les intérêts de ce pays. Ajoutons à cela, évidemment, quelque chose qui est tout à fait nouveau par rapport aux débats antérieurs, c'est le poids, bien sûr, de l'Union européenne et de la mondialisation, etc.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Toujours en quête de conservatisme, de réaction, de populisme, aujourd'hui en quête de politique avec Laetitia Strauss-Bonnard, Baptiste Roger Lacan et Olivier Dard. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. On reste un petit peu dans la théorie et dans l'histoire. René Raymond disait, Laetitia Strauss-Bonnard parlait évidemment de la tripartition de la droite très classique, orléaniste, légitimiste et bonapartiste. Est-ce que orléanisme, ça serait le conservatisme, bonapartisme, le populisme et légitimisme, la réaction? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas recycler ces termes-là comme ça?
Oui, c'est possible, mais je me permets de penser que cette tripartition n'est plus tout à fait... bonne pour réfléchir à ce qu'est la droite aujourd'hui.
Tout le monde acquiesce autour de la table. On va arrêter avec René Raymond.
C'est d'ailleurs pour ça que je propose, pour parler de la droite, une opposition entre les conservateurs ou libéraux conservateurs et les réactionnaires. Donc pour moi, il y a une opposition entre deux pôles et pas entre trois.
Et alors cette opposition, elle est claire pour vous ?
Alors elle est très claire au plan des idées, même s'il peut y avoir quand même des formes des rencontres, des points d'intersection, mais Olivier Dard l'a bien décrit tout à l'heure. Je pense qu'on peut ajouter une autre caractéristique qui est que les réactionnaires, à mon sens, ont toujours eu du mal à comprendre leur époque. Si on prend le cas de Maurras émerge à la fin du 19e siècle, on est plusieurs décennies après la publication de « La démocratie en Amérique ». Et donc de la prise de conscience quand même que les temps ont changé et qu'on vit l'avènement de la démocratie, quoi qu'on en pense. C'est-à-dire qu'il existe des forces historiques qui sont tellement puissantes, on appelle ça l'opinion aujourd'hui, mais à l'époque on n'appelait pas ça ainsi, mais il y a des demandes populaires, il y a des faits, il y a des mouvements intellectuels qui vont dans une certaine direction. Et plusieurs décennies après la Révolution française, il fallait reconnaître que l'égalité devant la loi des individus était désormais un fait politique, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche. Et ça, c'est le reproche que je me permets de faire aux réactionnaires, qui est de ne pas avoir été dans leur temps...
En tant que conservatrice.
En tant que libérale conservatrice, tout à fait. De ne pas avoir accepté... Je peux comprendre leur tristesse ou leur douleur. Je pense qu'il y avait une forme de voilà, c'était déchirant pour eux de voir que le monde auquel ils tenaient avait disparu ou disparaissait. Mais je préfère la mentalité d'un Tocqueville qui se disait aristocrate de cœur et démocrate de raison. Et aujourd'hui, on retrouve des traits similaires dans l'opposition entre réactionnaires et libéraux conservateurs, bien qu'aujourd'hui, les réactionnaires, au sens propre, n'existent plus vraiment.
Ils sont tombés dans le populisme, peut-être.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça.
On va écouter Philippe de Villiers tout à l'heure. Mais pour rester chez les conservateurs, et peut-être ceux qui sont à la limite entre les conservateurs et les réactionnaires, on va prendre un personnage d'aujourd'hui, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et je voudrais que vous écoutiez ce petit florilège.
Parce que la colonisation, c'est aussi des heures qui ont été belles.
On s'est laissé déposséder de ce qui est pour nous quelque chose d'important, puisque ça consiste à transmettre. La caractéristique de la droite, c'est de transmettre un patrimoine historique, des valeurs, transmettre un patrimoine aussi naturel, par une gauche qui a fait de l'écologie une idéologie, une forme de religion. Regardez Madame Rousseau, elle invite le wokisme jusque dans nos assiettes. Moi, j'ai rien contre ceux qui mangent du tofu, je veux simplement continuer à faire mes barbecues, vous voyez ce que je veux dire?
Trois priorités. Rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre.
Baptiste Roger Lacan, quand vous entendez ce petit florilège de Bruno Retailleau qui remet de l'idéologie à droite, comment vous qualifiez d'abord?
Franchement, en l'écoutant, je trouve que c'est intéressant. Ça dit quelque chose de ce qu'on peut appeler le populisme. Alors, je ne sais pas si Bruno Retailleau, originellement, est populiste. Je ne le pense pas. Il est historiquement plutôt quelqu'un qui vient des derniers bataillons de la contre-révolution française. Là, ça nous rappelle que le populisme, c'est aussi un double mouvement. C'est-à-dire que de la part de l'électorat, de la part des masses, c'est une demande de désintermédiation. C'est une demande justement de remise en question du parlementarisme, de créer une relation plus directe avec ceux qui gouvernent. Et puis, de la part de ceux qui gouvernent, c'est justement une tentative de répondre à une demande supposée. Là, ce qui est intéressant, c'est que Bruno Retailleau, il vient quasiment cocher tous les items de ce qu'en France, on a progressivement constitué comme étant le camp populiste face... aux mondialistes, aux cosmopolites, etc.
Au wokisme.
Donc clairement, il joue une partition, il la joue plutôt pas mal, puisque pour l'instant, c'est un des ministres les plus identifiés dans un gouvernement dont on a du mal à faire émerger des figures. Et puis, alors je pense que la dernière citation était à mon avis une forme de...
celle
sur l'ordre était, je pense, quand même une citation implicite de Clémenceau, dont il a... apparemment un buste dans son bureau, donc c'était une manière de faire référence au fameux discours sur la guerre. À l'intérieur, je fais la guerre, à l'extérieur, je fais la guerre.
Oui.
Donc je pense qu'il cherche aussi à s'inscrire comme ça dans des filiations politiques et à donc jouer avec les lignes, puisque Clémenceau vient de la gauche et a fini par incarner la nation. Donc je pense que Bruno Retailleau, à sa manière, se rêve un destin national en étant parti de la droite, voire très à droite.
Alors, Olivier Dard, je voudrais vous faire commenter ce qu'on vient d'entendre de Bruno Retailleau, mais d'abord, je voudrais vous faire écouter une déclaration de François Arago. Alors, c'est pas lui, évidemment, c'est un comédien, parce que c'était en juin 1848, et il a été, vous allez écouter cette déclaration, et il a été taxé de conservateur réactionnaire après avoir dit ça.
La République est fondée sur l'ordre. Avec l'ordre seul, la grande question du sort des travailleurs peut être résolue.
Alors l'ordre, disait Bruno Retailleau. Arago parle d'ordre. Baptiste Roger Lacan nous parlait de Clémenceau. On dit souvent, pour les réactionnaires, l'ordre est un but. Pour les conservateurs, l'ordre est un moyen. La façon dont Bruno Retailleau parle de l'ordre, ça ressemble plus à un but qu'un moyen.
Oui, il y a derrière tout ça l'image de Clémenceau qui était indiquée, je pense, effectivement, et puis le souci d'insister sur ce qu'on appelle aujourd'hui le régalien, l'ordre public, etc. À cet égard, par rapport à la logique conservatrice et réactionnaire, je crois qu'il ne faut pas forcément se laisser abuser justement sur l'emploi des mêmes mots. De quoi parle-t-on quand on parle d'ordre ? Et lorsque un Maurras parlait d'ordre, il ne parlait pas uniquement d'ordre public. Et d'ailleurs, il pouvait attaquer très durement l'ordre public républicain, notamment...
Il parlait de l'ordre social.
Pas seulement, oui, l'ordre social et aussi l'ordre esthétique. Hein, l'ordre esthétique, la vision du classicisme, l'ordre était une vision du monde autour d'une société extrêmement bien organisée, structurée.
L'église au milieu du village.
Oui, mais chez Maurras, n'oubliez jamais l'importance de l'esthétique, hein, la question du classicisme. Et de ce point de vue-là, ce qui est très frappant, c'est de voir, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, le nombre de débats qu'il peut y avoir dans toute une série de revues littéraires, intellectuelles, etc., sur le thème de la querelle de l'ordre. Et la querelle de l'ordre, ce n'est pas uniquement la question des institutions. C'est vraiment l'idée de construire une société fondée sur des bases les plus solides possibles, sachant que, effectivement, le libéralisme et plus encore le socialisme, le marxisme, etc., sont des menaces pour cet ordre que l'on va essayer de défendre, même si, là encore, hein, on pourrait aller assez loin, reparler d'Antigone, etc., du rapport entre Antigone, Créon, etc.
Trop loin, ça
mais
c'est trop
fondamental.
Loin. Oui, Laetitia Strojbonnard, le petit florilège que je viens de vous faire goûter de Bruno Retailleau, on dirait vraiment, ce que nous disait d'ailleurs Baptiste Roger Lacan, on dirait vraiment une tentative de synthèse du conservatisme et de la réaction.
Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Baptiste Roger Lacan. Je pense que...
Tant mieux.
Benoît Retailleau n'est ni un populiste, ni un contre-révolutionnaire, c'est un homme de droite. Les phrases, les propos qu'il a prononcés sont des propos de droite, avec lesquels on peut être en accord ou en désaccord. Mais je ne vois rien de chez lui de cette distinction, par exemple, entre un peuple merveilleux et formidable et une élite corrompue. Absolument pas. En fait, il s'adresse à toute la nation. Donc là, on retrouve un thème de droite qui a toujours été présent à droite. Et je trouve que c'est dommage de ramener ça du populisme, parce que ça empêche de voir la spécificité et de la droite et du populisme. Il n'a rien non plus d'un contre-révolutionnaire. Il n'a jamais critiqué les institutions de la République. Il n'a jamais remis en cause la République.
Il était villiériste.
Il vient d'une culture qui est fondamentalement contre-révolutionnaire.
Non, mais regardons ce qu'il est aujourd'hui. Soyons charitables. Soyons charitables, écoutons-le, lisons-le. Sur l'ordre, c'est important d'évoquer cette notion. L'ordre est important pour la droite, et je pense que pour la droite, l'ordre n'est pas une fin en soi, c'est un moyen en vue d'autre chose. En vue d'autre chose, eh bien, c'est tout simplement en vue de la stabilité de la société pour que les gens puissent vivre librement et que la société puisse être prospère.
En vue de la stabilité, donc en vue d'un ordre. C'est un ordre, donc l'ordre est un but.
Non, on n'est pas un but en soi. C'est un moyen en vue de la santé d'une société, de la liberté. Ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen en vue d'autre chose. En revanche, il me semble qu'il y a à droite une pathologie de l'ordre quand la droite devient réactionnaire ou fasciste. Le fascisme, c'est ça. C'est l'ordre comme fin en soi. Mmh. Bien sûr que la droite doit aussi elle-même se prémunir contre une tentation de l'ordre à tout prix. Il y a différentes façons de considérer l'ordre à droite. J'en citerai une qui est très rarement mentionnée, c'est celle de Friedrich Hayek, qui est donc un grand économiste libéral, qui lui faisait l'apologie d'un ordre spontané. Et quand je défends personnellement le libéralisme conservateur, je pense qu'on peut rendre compatibles des notions différentes de l'ordre. Il y a l'ordre qu'on a cité, notamment l'ordre public, qui est nécessaire pour pouvoir vivre en paix, en sécurité. Mais il y a l'ordre spontané des libéraux, qui n'est pas un ordre imposé d'en haut.
Et c'est pas l'ordre naturel des anti-républicains
Non, pas du tout. L'ordre spontané chez Hayek, c'est l'idée qu'il faut un petit peu lâcher du lest, il faut que la société s'auto-organise, et en s'organisant elle-même, elle trouvera organiquement, finalement, un équilibre. Et c'est un équilibre qui se voit notamment dans le marché. Qu'est-ce que c'est qu'un marché, si ce n'est, finalement, je vois Olivier Dard sourire, mais le marché, c'est une institution où règne l'ordre spontané, qui s'équilibre par l'intermédiaire du prix. C'est un modèle, hein. Je suis d'accord que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué.
Rapport de force.
Oui, bien sûr. Mais je trouve intéressant, quand on parle de l'ordre, de noter que chez les libéraux aussi, comme Hayek, l'ordre est présent. La notion d'ordre est présente.
Baptiste Roger Lacan.
Sur la question de Bruno Retailleau contre révolution, effectivement, ça fait quelques années qu'il ne dit plus rien. Mais en 2013, encore, lorsqu'il était à la tête du Conseil général de Vendée, il a commémoré les révoltes de Vendée en faisant un lien direct entre la Révolution française et les totalitarismes du XXe siècle, notamment le totalitarisme soviétique. Ça, c'est.
Oh, bon, on peut le faire, oui. Il y a 89, il y a 93, vous n'êtes pas obligé de prendre la révolution en bloc, c'est un raisonnement qui est contre-révolutionnaire
qui s'inscrit dans une matrice.
Mais la contre-révolution
Alors je suis contre-révolutionnaire, sans doute mais c'est pas forcément grave, c'est pas une insulte, mais la contre-révolution est un système large, c'est un imaginaire qui brasse large, qui fonde en France assez largement les droites françaises, au moins jusqu'en 1940. La Ve République vient un peu brouiller les lignes avec le gaullisme, qui est une synthèse qui sort très largement du lit traditionnel des droites. J'aimerais juste revenir à ce que vous disiez sur l'ordre. Je pense que, et rebondir un peu sur ce que disait Olivier Dard, je pense que ce que montrait Olivier Dard, c'est que l'ordre à droite, pendant longtemps, était une fin. Le principe, c'est qu'il fallait une société d'ordre, et que cette société d'ordre allait jusqu'au domaine esthétique. C'est la force de l'Action française, c'est de faire une proposition qui est absolument totale. L'ordre républicain, l'ordre qui vient de la gauche au départ, est plutôt un ordre qui est considéré comme un moyen, parce qu'on considère que l'ordre, c'est la richesse de ceux qui n'ont rien. C'est aussi, et ça commence dès la Révolution française, et notamment lorsque le gouvernement révolutionnaire prend des mesures radicales, c'est aussi pour dispenser le peuple de se comporter de manière monstrueuse. C'est l'obsession, le fantasme, l'obsession des massacres de septembre qui revient en 93 et 94, qui justifie des lois d'exception dont on pense qu'on veut, mais qui sont inspirées par le traumatisme que constituent les massacres de septembre, où l'intégralité du personnel politique émergent a assisté sidéré à la remise en question des principes même qu'il prétendait défendre, c'est-à-dire qu'il considérait que le peuple était fondamentalement bon, et tout d'un coup, en trois jours, le peuple a massacré 1700 personnes dans les prisons de Paris. Et donc, il y a cette idée qu'il faut rétablir l'ordre, parce que l'ordre, à la fois, permet de protéger les plus pauvres, en leur garantissant une stabilité intérieure, et puis à protéger même les plus pauvres d'eux-mêmes en les protégeant de leurs instincts les plus inquiétants. Donc je pense que cette nuance-là, elle est importante. Alors qu'ensuite, la droite ait évolué vers l'idée d'un ordre comme moyen, c'est le signe que la droite se républicanise en quelque sorte, et ça fait un moment qu'elle s'est républicanisée en France. Mais originellement, je pense que la droite telle qu'elle se constitue pendant ce moment clé fondateur, matriciel qu'est la Révolution française, considère l'ordre comme une fin en soi. C'est ce qui est renversé en 89, c'est la société d'ordre.
Nous sommes toujours avec l'essayiste conservatrice Laetitia Strauss-Bonnard, l'historien Olivier Dard et un autre historien, Baptiste Roger Lacan, et nous sommes plongés dans l'idéologie des droites et leur évolution.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Petit point autopromo, il y a une enquête de politique consacrée à l'ordre. Vous pouvez le trouver sur la page du site Enquête de politique de France Inter. Laetitia Strauss-Bonnard, vous vouliez réagir.
Je voulais préciser quelque chose. À mon avis, il faut distinguer quand même les contre-révolutionnaires des réactionnaires. Et c'est là, en fait, je pense, peut-être l'objet de notre différence, c'est que Edmund Burke, par exemple, est un contre-révolutionnaire, mais il n'est pas un réactionnaire. C'est-à-dire que dès que la révolution éclate, il s'inquiète de la violence, il s'inquiète de l'ambition de vouloir créer un ordre politique nouveau sans adapter ce qui existait, donc la monarchie, et sans l'adoucir, sans la parlementariser. Donc il se montre conservateur de cette façon, mais contre-révolutionnaire.
Parce qu'il est britannique et qu'il était pour une monarchie.
Tout à fait. Mais on aurait pu avoir un conservatisme à l'anglaise. On ne l'a pas eu. En France, c'est vrai que les contre-révolutionnaires ont souvent été des réactionnaires. Mais pas toujours. Donc je veux bien peut-être vous accorder le fait que Bruno Retailleau vient d'une tradition contre-révolutionnaire, mais ça n'en fait pas du tout pour moi un réactionnaire.
Mais il y a une sorte de nostalgie de l'ordre ancien pré-révolutionnaire, Olivier Dard, chez une partie de ceux qu'on appelle les réactionnaires. On va écouter Philippe de Villiers, c'était en décembre 2024, sur CNews, bien sûr.
Je sens et je vois venir les lucioles d'approche. La révolution conservatrice qui se développe actuellement aux États-Unis de manière inattendue, elle arrivera bientôt en France. Ce qui a empêché la révolution conservatrice, en fait depuis deux siècles, c'est l'idéologie de la table rase. Or, cette idéologie est à bout de souffle. Le progressisme, c'était l'idée qu'il n'y a plus de père, il n'y a plus de filiation, il n'y a plus de sacré. Et qu'on va donc vivre les prémices d'un homme nouveau universel. Patatras, ça n'a pas marché. On a un président de la République qui dit « Nous sommes les héritiers d'un passé qui est plus grand que nous ». Ça veut dire qu'en fait, il faut aller chercher loin dans notre histoire, jusqu'au baptême de Clovis, pour se sentir français. On est très très loin de la cérémonie inaugurale des Jeux. On est très loin de la laïcité, les valeurs de la République. Il devait y avoir une cérémonie républicaine devant qui a été chassée par la tempête. Elle a lieu à l'intérieur, et à l'intérieur, on a l'archidiacre Macron qui nous parle de la transcendance. C'est-à-dire, c'est le retour au sacré. On est en train de revenir à l'idée que le passé n'est pas haïssable.
Alors, on a beaucoup de choses à commenter. Philippe de Villiers, vieille figure de la droite française, qui redevient à la mode parce que CNews, C8, Europe 1, le JDD, toute la bolosphère nous le resserre tous les jours, quotidiennement. Olivier Dard, je voulais vous interroger sur cette notion de révolution conservatrice. On parle souvent de la révolution conservatrice s'agissant des États-Unis. Mais conceptuellement, révolution conservatrice, c'est un oxymore, non ?
Non. C'est-à-dire qu'en réalité, ce terme de révolution conservatrice, bon là on parle des États-Unis, bon je suis pas convaincu que ce soit une révolution conservatrice qui soit
on pourra
en parler. Mais le terme de révolution conservatrice, il a connu une véritable importance dans l'Allemagne des années 1920. C'est-à-dire c'est là où il y a véritablement un courant qu'on a appelé la révolution conservatrice autour de figures comme Möller-Vandenbrück, comme Ernst Jünger, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose de relativement identifié, et ça nous amène d'ailleurs à nous poser la question par rapport à ces enjeux liés au conservatisme, à l'ordre, à la réaction, etc., de la place de la France et des liens que peuvent avoir, au fond, un certain nombre d'acteurs français par rapport à l'étranger. Depuis un petit peu le début de l'émission, on a, et c'est assez logique, hein, un peu tendance à considérer la France comme une forme un petit peu d'isolat. Moi, ce qui m'intéresse du point de vue de ces idées politiques, c'est de bien comprendre comment les choses fonctionnent en termes de circulation, de réseau de transfert. Tout à l'heure, il était question de Burke. C'est intéressant, c'est un libéral britannique qui observe la Révolution française et qui la combat. Et ça pose d'ailleurs plus largement la question de l'influence et des liens qui peuvent exister entre ces élites britanniques et justement ce monde français. Laetitia Strauss-Bonnard disait qu'effectivement, il n'y a pas eu véritablement d'héritage britannique. Alors on pourrait d'ailleurs le nuancer, mais c'est vrai. En ce sens qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a, durant ces droites françaises, un élément qui pour moi est absolument fondamental, c'est l'ancrage catholique, latin, méditerranéen, et je ne veux pas ramener tout ça à l'Action française toujours, oui, mais c'est quand même absolument fondamental, beaucoup plus que tourner vers le monde anglo-saxon. De ce point de vue, les
latins, méditerranéens, chrétiens et national à partir de Maurras.
Oui, et avec une tradition anti-américaine ou anti-états-unienne particulièrement marquée. Hein, de ce point de vue,
les choses ont peut-être changé. Ouais.
Les choses ont changé, mais elles ont changé assez récemment à l'échelle de deux siècles.
Laetitia Strauss-Bonnard, vous êtes conservatrice, vous l'assumez. Quand vous écoutez Philippe de Villiers là, qui parle de l'échec finalement de l'homme nouveau, de la révolution. Ça ressemble vraiment à un discours, pour reprendre le mot que vous n'aimez pas de René Raymond, légitimiste, un discours qui glorifie l'anté-révolution.
Oui, c'est possible. Alors, déjà, il est difficile de démêler ce qu'il veut dire exactement dans ce passage.
Parce qu'il est un peu lyrique, c'est Philippe de Villiers.
Voilà. Il appartient très certainement à cette tradition contre-révolutionnaire que nous avons évoquée.
Qui revient en force quand même, médiatiquement au moins.
Je dirais surtout qu'il est, lui, il fait partie des réactionnaires d'aujourd'hui, mais quand je parle des réactionnaires, on a des réactionnaires que je nommerais plutôt soft, c'est-à-dire lui ou Éric Zemmour, c'est-à-dire que c'est très très différent de ce qu'on avait sous l'Action française.
Éric Zemmour, vous le trouvez soft ?
Non, mais ce sont des réactionnaires de salon. Que font-ils si ce n'est parler, écrire ce sont des postures. Je ne vois pas, moi, d'action. Voilà, ce ne sont pas des ligues. Il n'y a pas d'action violente associée à leur mouvement. Et bien heureusement, ils se complaisent quand même un petit peu dans la déploration. Et ce sont des réactionnaires parce qu'ils appartiennent à cette famille, justement, de lamentation, de détestation du présent. Sachant que tout cela est un peu fluctuant, Philippe de Villiers, il y a quelques années, était plus conservateur que réactionnaire. Il me semble qu'avec le temps, il a été de plus en plus tenté par cette position un peu extrême. Tandis que justement, Bruno Retailleau à l'inverse, a pris ses distances et est devenu plus libéral,
peut-être que,
plus libéral
peut-être conservateur. Peut-être que Philippe de Villiers est resté sur ses terres vendéennes avec le Puy du Fou. Il a retrouvé ses espèces de racines aristocrates et il y a tout un monde comme ça autour de lui.
C'est tout à fait possible. Et après, parfois, on devient l'image médiatique qui est projetée de soi. Donc il y a peut-être
aussi caricature un peu
ça qui s'est passé. Donc cette droite existe. Je pense qu'elle a quand même une composante un peu autocomplaisante et un peu paresseuse aussi, puisque ça ne se traduit pas vraiment par des actions concrètes. Je le regrette, en tout cas, qu'elle ne cherche pas à être dans le temps, dans le présent. Qu'elle ne cherche pas, justement, à être conservatrice. Qu'elle ne cherche pas à accepter le monde tel qu'il est et à essayer de garder ce qu'il y a de meilleur dans le passé, dans le présent, tout en s'adaptant à la nouveauté.
Baptiste Roger Lacan, quand vous entendez Philippe de Villiers, est-ce que c'est simplement une figure médiatique vantée et boostée, gonflée à l'hélium de Bolloré, ou il y a un virage réactionnaire de la droite française?
Non, je ne pense pas. Alors, je pense qu'il y a un durcissement indéniable de la droite française.
Oui, Laurent Wauquiez, par exemple.
Mais dans un contexte de façon plus générale de forte polarisation de notre vie politique et d'inquiétude, notamment vis-à-vis de l'efficacité, enfin, de remise en question du régime et d'inquiétude vis-à-vis de son efficacité. Je ne sais pas s'il est gonflé à l'hélium, par contre, Philippe de Villiers, contrairement, il y a d'autres éditorialistes qui sont complètement gonflés à l'hélium de l'audimat, mais dans le cas de Philippe de Villiers, il est quand même assis sur le Puy du Fou, qui est un indéniable, on en pense ce qu'on veut, mais
un
qui
grand
est
succès.
Un immense succès.
Et ses livres
se vendent très bien, mais surtout son parc, qui est, je crois, le deuxième parc à thème le plus visité en France, après Disneyland, est un fief. Vous avez parlé de cet ancrage aristocratique. Je pense qu'effectivement, dans le cas de Philippe de Villiers, on peut parler d'une forme d'enracinement aristocratique en Vendée, ou de cette région mémoire, comme l'appelle Jean-Clément Martin, en parlant de la Vendée, est devenu un homme mémoire. C'est-à-dire que Philippe de Villiers est devenu la métonymie de la Vendée, qui elle-même en France est devenue la métonymie de la contre-révolution. Donc il fait exister ça dans le débat public. Je pense que ça existe parce qu'il y a une demande qui peut se combiner à d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut être de culture et d'imaginaire contre-révolutionnaire, on peut n'avoir aucune sympathie pour la Révolution, et même pas pour celle de 89, pour reprendre une distinction dans laquelle je crois pas beaucoup, mais on peut refuser même 1789, et voter pour Emmanuel Macron. Ça existe, en fait. Quand on regarde l'électorat d'Emmanuel Macron en 2017, on voit qu'il y a toute une frange, notamment de l'électorat catholique observant, qui n'a aucune sympathie pour la Révolution française, qui a voté pour lui comme un seul homme en 2017. Alors, ça a évolué, ça a glissé entre 2017 et 2022, mais cet imaginaire, cette tradition contre-révolutionnaire, aujourd'hui, elle se combine très bien à d'autres choses. Elle est à la fois... elle est infra, elle est suprapolitique, elle est très identitaire, en fait. Elle dit d'autres choses, elle permet de se reconnaître à l'intérieur d'une famille, elle raconte des légendes. C'est tout un imaginaire que Philippe de Villiers a réussi à capter très bien. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques mois ou quelques années, j'ai plus en tête, là c'est très bien, j'ai son dernier livre, mais pas les précédents en tête, il est devenu plus offensif contre le régime, contre Emmanuel Macron. Après qu'ils ont eu une forme de lune de miel, à un moment, clairement, le divorce est consommé. Et donc, Philippe de Villiers, un peu comme les Chouans et les Vendéens qui n'ont jamais baissé les armes entre 1793 et 1815, a repris les armes. C'est la énième rupture du traité de la Genève. Donc, Philippe de Villiers repart en guerre. Ce qui est intéressant, c'est que ça persiste. Et surtout, c'est que ça a toujours un écho, et que ça a toujours un écho, notamment auprès des jeunes générations. Je voyais l'autre jour l'administrateur de la Chapelle Expiatoire qui me disait que dans les 10 dernières années, l'assistance à la messe du 21 janvier avait décuplé. On est passé de 80 personnes à 800 personnes. Et donc, il y a un retour, demande que Philippe de Villiers alimente.
France Inter, en quête de politique.
Alors, nous sommes toujours avec Olivier Dard, Laetitia Strauss-Bonnard et Baptiste Roger Lacan, et nous nous interrogeons jusqu'à 19h sur le conservatisme, la réaction et le populisme. Et là, je voudrais faire écouter à Olivier Dard, à vous tous, mais je voudrais faire commenter d'abord à Olivier Dard un extrait d'un discours de J.D. Vance, le vice-président américain. C'était à Munich il y a quelques semaines, où il a donné une leçon à la démocratie européenne. Donc, Olivier Dard, spécialiste du conservatisme, de la réaction et de la droite européenne, comment vous allez réagir à ça ?
Pour moi, la principale menace vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un acteur d'une nature externe. Ce qui me préoccupe, c'est la menace intérieure. la retraite de l'Europe vis-à-vis de certaines valeurs fondamentales, de valeurs communes avec les États-Unis. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Je le crains.
Alors la liberté d'expression, Olivier Dard, c'était traditionnellement, dans l'imaginaire collectif, plutôt une valeur de gauche. Et là, elle serait menacée et elle est défendue par quelqu'un classé très à droite.
Oui, enfin, je crois que ce qui est en train de nous expliquer Vance dans son discours, c'est deux choses. Bon, d'abord, il y a quand même une dimension géopolitique. Hein. On ne sait pas
oui,
ce qu'on va commenter,
sûr.
Mais c'est quand même l'essentiel, à mon avis. Et,
il y a une logique d'empire qu'il faudrait qu'on décrive. Mais,
voilà. Et par ailleurs, effectivement, il est en train de décalquer sur la situation européenne, la situation américaine, en insistant effectivement sur ce qu'il appelle, il ne le dit pas là, mais c'est bien ce dont il est question, la menace wokiste, etc. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce qu'il est en train de dire, c'est tout ce qui est lié autour d'une communion ou d'une réputée communion entre les États-Unis et l'Europe. Et ça, c'est quand même un élément intéressant, parce que d'un côté, on dit que les États-Unis sont en train, effectivement, d'aller vers une voie isolationniste. En même temps, il explique que vis-à-vis de l'Europe, il y aurait une communauté de destin. À cet égard, ce qui est un véritable enjeu, me semble-t-il, du point de vue historique, c'est justement la relation entre ces milieux conservateurs, réactionnaires et les États-Unis. Ce qui me frappe, je parlais tout à l'heure de l'histoire de l'anti-américanisme, ce qui me frappe effectivement depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, ce sont des liens plus nourris, plus importants, entre ces familles politiques en Europe occidentale et en particulier en France, avec les États-Unis. L'équivalent, au fond, du monde, des républicains, etc. Tout ça est quelque chose de relativement nouveau. Quand Guy Sormont avait publié en son temps « La révolution conservatrice américaine », c'était quoi la révolution conservatrice américaine? C'était le réganisme, le néolibéralisme qui débutait, etc. Donc on avait toute une partie de la droite de gouvernement française très marquée par Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etc. Ce qui est frappant à observer, on parlait tout à l'heure des milieux catholiques, c'est aussi les modes d'importation en quelque sorte.
Et c'est toujours le cas. La droite française est un peu fascinée par Trump, Vance.
Mais au-delà de Trump et Vance, les élites françaises ont été fascinées par les États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà. C'est, alors, il y a Trump et Vance peut-être, mais il y en a eu d'autres avant. Il y a un philo-américanisme français des élites qui est quelque chose d'essentiel.
Laetitia Strauss-Bonnard, quand vous entendez des leaders français. Dire comme ça que ce qui se passe aux États-Unis est intéressant, mettre en cause aussi un peu l'état de droit, dire que il y a trop d'intermédiaires, il y a trop de corps intermédiaires, que la justice exagère, que le monde associatif prend trop de place. Comment vous réagissez? Parce que finalement, l'état de droit, Montesquieu, la limitation des pouvoirs de ceux qui ont le pouvoir, c'est quelque chose qui fait partie du conservatisme libéral. C'est une évolution étrange quand même, non?
Oui, alors c'est assez compliqué parce que toute la droite quand même, toute la droite française n'est pas, émerveillée par ce qui se passe outre-Atlantique. Hein. Les admirateurs de Trump, ce sont plutôt des gens comme Éric Zemmour, Philippe de Villiers, il me semble.
Quand vous entendez Laurent Wauquiez taper sur les juges...
Non, mais vous parliez de la proximité avec les États-Unis. Tout le monde n'admire pas ce qui se passe aux États-Unis. Je pense tout de même qu'à droite, il y a un certain intérêt... Parce qu'il se passe quelque chose. Et je pense que c'est ça qui plaît à la droite quand elle regarde les États-Unis, c'est que très souvent, on dit et notamment aux électeurs de droite, ah ben ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas réduire l'immigration, par exemple. On ne peut pas protéger nos frontières, c'est trop compliqué. Tout est toujours trop compliqué. On ne peut pas lutter contre la bureaucratie, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Et là, vous avez des gens qui font des choses. Alors, ils le font d'une façon très brutale, certes. Donc, je ne dis pas que c'est ainsi qu'il faut le faire. Mais tout de même, je pense que ça donne à certains une forme d'espoir. Donc c'est ainsi que j'interprète l'intérêt de certaines personnes de droite, et je ne parle pas que des hommes politiques, hein, je pense aussi à tout simplement aux électeurs et à l'opinion. C'est ainsi que j'interprète cet intérêt pour les États-Unis. Après, la France reste quand même assez anti-américaine. Regardez, le Rassemblement national est mal à l'aise. Il ne peut pas vraiment dire du bien de Donald Trump, qui c'est quand même le président des États-Unis. Je pense que les Français n'aiment pas Donald Trump. Ils aimaient peut-être un peu Elon Musk, mais ils ne l'aiment pas énormément
là,
non plus.
Donc
il n'y a pas une passion américaine. Alors sur l'autre point que vous soulignez, la contestation de l'état de droit et la lutte contre l'impuissance politique, je pense qu'il faut quand même trouver une solution à cette question. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas infiniment dire aux gens qu'on ne peut pas faire certaines choses parce que l'état du droit l'empêche. Et d'ailleurs, vous citiez Montesquieu. Montesquieu écrit...
L'état du droit se change par les élections, voilà. En tout cas par le législateur.
Tout à fait.
Par le législateur, selon certaines règles.
Mais pour parler de ce que certains appellent le gouvernement des juges, un terme que je ne reprends pas du tout, mais c'est un peu là-dessus que vous m'en veniez, si l'on lit Montesquieu, on apprend qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, mais ça vaut pour tous les pouvoirs. Ça vaut quand le pouvoir judiciaire doit arrêter les deux autres pouvoirs, mais ça vaut aussi quand le pouvoir judiciaire doit être arrêté par les autres pouvoirs quand il prend trop de pouvoir. C'est ça, l'équilibre des pouvoirs. Donc, la position modérée que la droite devrait adopter aujourd'hui, selon moi, c'est celle-ci. Demander un véritable équilibre des pouvoirs, y compris à l'égard du pouvoir judiciaire.
Baptiste, Roger Lacan.
Non, ce qui est frappant, en fait, c'est que Vance quand même parle de liberté d'expression, alors que pour le coup, et ça c'est le rôle de l'histoire intellectuelle de faire ça, mais c'est quand on regarde l'entourage de J.D. Vance, quand on regarde avec qui il travaille, quels sont les auteurs qui l'inspirent, c'est que lui, pour le coup, appartient à une coterie qui a longtemps été très marginale au sein du Parti républicain, qui gagne en importance, qui s'appelle les post-libéraux, et qui revendique explicitement la rupture avec le libéralisme économique et politique.
Ça, qui multiplie les interdits en ce moment, d'ailleurs.
Exactement, et eux s'inscrivent vraiment dans une tradition qui est ils revendiquent la pensée de saint Thomas d'Aquin, ils revendiquent une certaine pensée de saint Thomas d'Aquin, il revendique la pensée de Joseph de Maistre, il revendique une rupture avec l'ordre qui est né entre 1776 et 1789. Donc ces post-libéraux-là, c'est intéressant de voir cet homme qu'ils ont réussi, par une série de, notamment par leur proximité avec Peter Thiel, à placer à la Maison-Blanche, utiliser la liberté d'expression pour attaquer, en fait, c'est un prétexte effectivement géopolitique pour bien marquer la rupture en cours entre les États-Unis et l'Union européenne, pour attaquer les Européens. Par ailleurs, ça révèle quelque chose de plus large au sein du Parti républicain aujourd'hui, c'est-à-dire cet alliage étrange entre, d'un côté, des gens qui ont rompu, à mon avis, avec la démocratie, qui n'y croient plus, comme J.D. Vance, comme Peter Thiel, qui considèrent que il n'y a plus, la démocratie n'est plus le meilleur régime pour favoriser la croissance, voire pour favoriser la liberté individuelle. Et puis, tout un ensemble, pour le coup, de républicains populistes ou qui appartiennent à toutes les traditions du populisme de droite américain qui, eux, ont une conception, à mon sens, complètement tronquée de la démocratie, en tout cas qui détestent la démocratie libérale, c'est-à-dire le principe que l'idée sur laquelle la démocratie n'est pas seulement la voix de la majorité, mais aussi la défense des minorités politiques, et puis dans le cas américain qui a cette tradition singulière, des minorités ethniques, des minorités religieuses. Et pour l'instant, il y a cet appareillage un peu entre ces deux tendances au sein du Parti républicain qui s'exprime. Alors, effectivement, ça fascine et en même temps ça provoque des réactions de rejet en France pour des raisons qui tiennent en fait aux traditions propres à chaque parti politique, c'est notamment au sein du Rassemblement National qui n'arrête pas de mettre en scène sa singularité et son idée de défendre la souveraineté nationale contre tous les empires. C'est compliqué tout d'un coup de se réaligner sur les États-Unis. Ça l'est d'autant plus qu'il voit bien que la politique qui est menée par le gouvernement américain est une politique qui est quand même très hostile au principe même de l'État, alors que le seul héritage qui reste de Florent Philippot au sein du Rassemblement National, c'est l'étatisme, qui est une vraie évolution quand même dans l'histoire idéologique du Rassemblement National. On voit que les républicains sont quand même pas très à l'aise, vont essayer, à mon avis, plus tôt, ils ont commencé à le faire, à reprendre Milley.
Les Républicains, donc LR. Le parti français de la droite.
Donc Wauquiez, Retailleau et compagnie vont plutôt, à mon avis, essayer de reprendre Milley en sautant la case américaine. C'est-à-dire, je pense qu'on va avoir
le libéralisme économique.
Exactement, une forme d'affouérisme à la française, forgé à partir de Affouérin, slogan de...
On coupe, on tronçonne.
Exactement. On tronçonne, on coupe, mais en coupant la case Trump, qui les met trop mal à l'aise, qui, pour citer Chamberlain, je crois, n'est vraiment pas un gentleman. Et puis effectivement, des groupes plus marginaux à l'extrême droite, comme Reconquête, comme UDR, le micro-parti d'Éric Ciotti, qui, eux, sont obligés en fait, de jouer une logique de distinction, doivent, dans un contexte ultra concurrentiel à droite, chercher à se différencier. Alors pour eux, ils n'ont pas grand-chose à perdre, en fait, ils ont tout à gagner. Si tout d'un coup Trump gagne en popularité à droite, eh bien ils en profiteront, ils auront été les premiers sur ce créneau. Et puis sinon, de toute façon, ils ne pèsent pas très lourd. Il faut bien voir que quand Vance nous parle, il parle en fait beaucoup aux Américains, il parle beaucoup à son propre parti. Et quand nous, on parle de Trump, les leaders de la droite parlent de Trump, ils parlent en fait de leur propre contexte national.
Merci à vous trois. Pour aller un peu plus loin sur tous ces sujets, Olivier Dard, vous avez écrit « Dictionnaire du conservatisme » aux éditions du Cerf. Laetitia Stroche-Bonnard, « Gratitude », c'est votre dernier livre, « Gratitude » aux éditions de l'Observatoire. Et Baptiste Roger Lacan, vous êtes l'auteur de « Le Roi, une autre histoire de la droite » aux éditions du Passé Composé. Je rappelle que vous pouvez retrouver la série sur le conservatisme et les réactionnaires sur l'appli Radio France. Nous avons parlé du populisme aussi pendant toute cette heure, et il y a une série justement d'enquêtes de politique sur le sujet. On commence à avoir une belle collection d'une centaine de ismes et autres concepts utilisés dans le débat public. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert. Les archives sonores sont dénichées par Franck Olivard. À la technique ce soir, il y avait Adèle Caglar. On se retrouve dimanche prochain. On ne peut plus rien dire. Ce sera le thème de l'émission, la liberté d'expression. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.